explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
L'histoire pourrait être celle d'un roman. Suite au naufrage du navire qui les transportait, une soixantaine d'esclaves se retrouvent seuls sur une minuscule île déserte perdue dans l'océan Indien. Pas un arbre sur ce petit morceau de terre balayé par les cyclones. Ces hommes et ces femmes vont devoir se débrouiller seuls. Il leur faudra attendre 15 ans avant qu'un navire vienne rechercher les survivants. Cette histoire pourrait être celle d'un roman, mais elle est bien réelle. Alors que s'est-il passé pendant ces 15 années? Comment la vie s'est organisée sur ce caillou au milieu de nulle part? Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle diffusion du temps d'un bivouac consacrée à l'enquête archéologique menée sur l'île Tromelin. Avec pour guide Sylvain Savoya, auteur de la bande dessinée Les Oubliés de Tromelin chez Dupuis, et Max Guéroux qui a dirigé 4 expéditions archéologiques sur cette île et qui a publié Tromelin, l'île aux esclaves oubliés, une coédition CNRS INRAP. En deuxième heure, comme tous les vendredis, nous retrouverons Anne Pastor pour un nouveau voyage en terre indigène. Aujourd'hui, Anne s'intéressera aux enfants de la honte chez les Atikameks du Québec et les Pygmées Baguélis du Cameroun. Mais tout de suite, nous mettons le cap sur l'île de Tromelin.
La première chose que j'ai vue en arrivant sur la côte, ça a été la mer, bien sûr, mais aussi le bateau au mouillage. Je n'avais jamais rien vu d'aussi grand qui aille sur l'eau. Mais mon étonnement s'est transformé en peur quand j'ai compris qu'il attendait sa cargaison et que c'était nous. Puis en terreur, dont je m'efforçais de ne rien montrer quand on m'a fait monter à bord. Je me souviens de ce qu'on se disait entre nous, que l'on va aller au-delà de la grande mer et que les Blancs peuvent nous manger.
Ils étaient 160 esclaves à embarquer de force à bord de l'Utile, un navire de la Compagnie des Indes Orientales dans un port de Madagascar en 1761. Et ces hommes et ces femmes ne le savent pas encore, mais le pire est encore devant eux au bout de ce voyage. D'où vient ce navire, l'Utile, qui embarque donc ses esclaves à Madagascar, Max Guéroux?
Bien, il vient de Bayonne. Il a été armé à Bayonne par la Compagnie des Indes, parce qu'il se trouve qu'on est pendant la guerre de 7 ans et que la flotte de la Royal Navy bloque les ports français. Donc on arme en dehors de l'Orient, qui est le port principal de la Compagnie des Indes. Et donc le bateau est armé à Bayonne et se rend à l'île de France, où il apporte du matériel, des matières premières nécessaires à la vie de l'île.
Mmh. L'île de France est l'île Maurice actuelle.
L'île Maurice actuelle, oui. Mmh. Et puis après un petit séjour à l'île Maurice, enfin à l'île de France, on l'envoie chercher des vivres à Madagascar et on lui interdit d'ailleurs de ramener des esclaves parce qu'on craint une disette dans l'île de France. Donc le bateau, l'Utile, va donc aller en escale à Foul Pointe, qui est un port du nord-est de Madagascar.
On lui interdit d'embarquer des esclaves et il fait fi de cette interdiction puisqu'il embarque bel et bien 160 esclaves à son bord.
Oui, je pense que l'interdiction fait qu'il pense qu'il les vendra mieux, à un meilleur prix. Et donc, il embarque 160 esclaves, probablement en contraignant pratiquement tous ses officiers à suivre son idée. Mmh. Et il n'est pas assez stupide pour les ramener directement à l'île de France. Et il pense les débarquer dans une autre île qui est dans le nord-est de l'île de France et de les ramener par petits paquets à l'île de France. Et il suit pour ça une route inhabituelle.
Ouais. Et déjà à bord de ce bateau, hein, dans la cabine, l'animosité s'installe entre le capitaine et le pilote. Tout le monde n'est pas d'accord sur la route à suivre.
Oui, c'est un peu une constante sur les bateaux quand les choses sont pas très claires. Le commandant et le pilote campent sur leur position. Là, il est certain que le commandant n'a pas fait preuve de beaucoup d'intelligence ni de prudence, puisqu'ils avaient deux cartes à bord donnant deux positions différentes d'une petite île à proximité desquelles ils passaient. Et le pilote tenait pour une et le capitaine pour l'autre, mais au lieu d'être prudent en disant la position est indécise, le capitaine a tapé sur la table, il a dit c'est de la, c'est cette carte qui est bonne. Mmh. Et en fait, elle n'était pas bonne, puisque le bateau s'échoue pendant la nuit sur l'île.
C'est ça. Après avoir tapé sur la table, c'est le bateau qui tapera sur les rochers, et c'est le naufrage.
Le 31 juillet, au soir, vers 10h, le bâtiment talonna deux fois coup sur coup, puis une troisième, très brutalement. Tous les hommes d'équipage qui dormaient alors furent réveillés en sursaut par cet horrible fracas et se précipitèrent sur le champ à leur poste. Il y eut un court moment de saisissement général, et très vite, comme le navire était secoué de toutes parts et que le sinistre grondement redoublait, une terreur immense gagna l'ensemble de l'équipage. Nous acquîmes bien vite la certitude d'avoir touché à un haut fond à peine couvert d'eau, que le vaisseau était perdu, et nous tous avec lui. Certains sanglotaient, imploraient leur mère, d'autres étaient crispés par l'effroi. Des cales montaient les plaintes déchirantes des Noirs, entravés et incapables de tenter quoi que ce fût pour leur salut. Quand soudain une voix cria à terre, et je pus voir en effet vers tribord comme une vague ombre à peine élevée sur l'horizon.
Au milieu de ce tumulte et de la nuit, le vaisseau qui souffrait la plus violente fatigue menace de s'entrouvrir. Le gouvernail casse la barre d'Arcas et la barre les baux de derrière. On fait partir le gouvernail. Le fond du bâtiment s'ouvre dans le même instant. On se sauve des soutes. Les malades sont noyés dans leur cadre. On n'a plus devant les yeux que la terreur ou la mort. On veut jeter le canot à la mer, mais les chutes et rechutes du vaisseau rendent tous les efforts inutiles. Tous les travailleurs sont précipités au milieu des débris. Tout est au comble du désespoir. Vers les 3 heures du matin, le mouvement du vaisseau paraît se ralentir. Nouvelle tentative pour mettre le canot à la mer, aussi infructueuse que les premières. Il survient tout à coup une lame qui, par sa chute, enfonce le pont et entraîne tout dans la cale avec les hommes. Alors le vaisseau se divise en 6 principales parties sur lesquelles l'équipage se trouve dispersé au hasard.
Je m'accrochai quelques instants à un débris qui flottait là, eus le temps de m'apercevoir qu'il ne resterait bientôt plus rien de l'utile et résolus de nager de toutes mes forces vers la terre. Mais je parvins par miracle, pantelant, meurtri, plein de désespoir, sur la plage. Quelques autres hommes étaient là déjà, d'autres arrivèrent peu après moi. Nous étions sauvés et contemplions le spectacle d'apocalypse de notre navire déchiqueté par les mâchoires affreuses de l'océan.
Extrait de Sur les docks sur France Culture, histoire d'une survie invraisemblable. Le travail qu'on fait avec cette mise en onde sur France Culture, c'est un peu ce que vous avez fait, vous, Sylvain Savoya, avec votre bande dessinée, Les esclaves oubliés de Tromelin, c'est-à-dire qu'il y a les faits, ce qu'on connaît, et puis il y a la mise en fiction. Parce qu'évidemment, on ne sait pas tout de ce dont, de la façon dont ça s'est passé.
Il y a une part d'interprétation forcément, puisqu'on part de choses qui sont très concrètes que Max et son équipe ont mis en lumière. Mais il manque toujours évidemment tout un tas de détails, et à chaque fois qu'on doit mettre en dessin cette histoire-là, enfin une histoire en règle générale, chaque trait est une question, et d'autant plus quand il s'agit de quelque chose d'historique et qu'on travaille sur du matériel aussi précis qu'une histoire réelle comme celle-ci. Donc il y a un gros travail de documentation qui doit être fait.
Et vraiment, en regardant vos dessins, parce que dans votre bande dessinée, vous alternez le présent, les fouilles archéologiques qui sont menées actuellement sur cette île, et puis l'histoire, la façon dont ça s'est passé. On a vraiment l'impression que vous y étiez, parce que ça sonne vrai, mais il y a une part d'imagination, forcément.
Alors, le fait d'être allé sur l'île avec Max et son équipe, ça, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est assez rare pour un auteur de mettre les pieds sur le lieu où il va mettre son histoire en scène. Et là, ça me permettait quand même de ressentir des choses et de pouvoir quand même me mettre un petit peu dans cette ambiance, puisque l'île n'a pas changé, elle est restée telle qu'elle était à l'époque. Et ça, c'était vraiment une grosse chance pour réaliser cet album.
Et Max Guérou, cette île, telle qu'elle était à l'époque, au moment où le bateau, l'utile, s'échoue à proximité, combien d'esclaves à bord? 160? Combien de membres d'équipage sont à bord du bateau? Combien de Français?
Au moment du naufrage, ils sont un peu plus de 140, 142 ou 143, je me souviens plus exactement, et il y en a une vingtaine qui sont noyés, donc il y a 120 Français qui restent, mais des esclaves, là, à peu près la moitié sont noyés, puisque le récit qu'on a entendu tout à l'heure le décrit bien, c'est-à-dire qu'ils sont restés coincés dans la cale jusqu'à ce que le bateau se disloque, mais un grand nombre d'entre eux ont été noyés avant.
Donc une soixantaine d'esclaves qui se retrouvent
en fait,
un peu plus.
Ils sont 80 à peu près.
Description de cette île. À l'époque, on appelle cette île l'île de sable. À quoi ressemble-t-elle? Quelle taille fait-elle? Max Guérou.
Alors, c'est une île minuscule. En fait, elle fait 1 km², c'est-à-dire il y a 1700 mètres de long sur 700 mètres de large. Elle est surtout très plate. Elle a au maximum 6, à l'époque du naufrage, 6 à 8 mètres de haut dans la partie nord. Et le reste est tout plat. Même la partie sud est en dépression, d'ailleurs. Ouais.
Donc vraiment un lieu sur lequel on n'imagine pas survivre 15 ans. Pourtant, certains de ces esclaves vont réussir à le faire. Alors dès le début, quand ils arrivent, la vie s'organise. On récupère des morceaux, des vivres qui sont à bord du bateau. On récupère aussi de quoi faire un radeau pour s'échapper de cette île, Marx Guérou.
Oui, c'est pas tout de suite. En fait, dès le départ, quand les marins français vont construire, eux, une embarcation de fortune et partir, au bout de 2 mois de séjour, et laisser les esclaves seuls.
Ah oui, seuls, quand je parle du radeau, on en est donc aux Français qui, dans les deux premiers mois, eux vont construire ce radeau.
Ah non, ce n'est pas un radeau, en fait, c'est un vrai bateau. D'accord. Ils construisent un vrai bateau. Et c'est le second, en fait, Castellan du Vernet, qui prend en main les choses, puisque il se trouve que le charpentier qui a été embarqué tout au dernier moment, d'ailleurs, de l'appareillage de Bayonne, parce qu'on n'en trouvait pas, n'était effectivement pas très bon. Et donc, c'est le second qui prend en charge la construction de ce bateau, fait les plans et le construit avec les débris de l'utile.
Alors, 2 mois après, ce bateau est prêt, mais tout le monde n'embarquera pas.
La construction du radeau s'achevait. Il ne mesurait malheureusement que 33 pieds de quille au lieu des 45 requis. Les nègres constataient l'avancement des travaux avec beaucoup plus d'inquiétude encore que nous autres. L'angoisse se lisait clairement sur leur visage lorsqu'il fallut leur faire comprendre et admettre que malheureusement, par manque de matériaux, le radeau pouvait embarquer tout juste les 122 blancs que nous étions, mais qu'une fois tous montés à bord, il n'y aurait plus la moindre place pour aucun d'entre eux. Leur abattement était pitoyable à cette nouvelle, et il était évident que nous ne leur inspirions pas d'autre sentiment qu'une haine inextinguible.
Les Blancs abandonnent donc les esclaves sur l'île avec 3 mois de vivres. On leur laisse même une lettre de promesse leur disant qu'on viendra les chercher. Évidemment, ils n'y croient qu'à moitié. On s'en doute, on n'y était pas. Il faudra attendre longtemps pour que cette promesse soit tenue. 15 ans. Pendant 15 ans, ces hommes et ces femmes vont tenter de survivre sur ce bout de terre sans arbres, balayé par les vents. On ne sait quasiment rien de la façon dont la vie s'est organisée sur cette île pendant 15 ans. Et c'est cette histoire, Max Guérou, qu'en tant qu'archéologue, vous tentez de retracer. Combien de missions archéologiques avez-vous effectuées sur cette île Tromelin ?
On a fait 4 missions, en fait, dont la durée varie entre 40 et 45 jours. Donc, on en a fait une première en 2006, 2008, 2010 et 2013.
Vous disposez aussi, bien sûr, dans cette émission, on reviendra sur ces missions scientifiques, archéologiques que vous avez menées, vous disposez aussi d'écrits laissés par les marins naufragés rescapés, les Blancs, les Français, qui, eux, ont pu s'échapper.
Oui, il y a un document remarquable qui est anonyme, mais en fait, on arrive très très bien à savoir qui l'a écrit, et c'est l'écrivain du bord, qui s'appelle Dubuisson de Kérodic, et qui... Et ce document est d'autant plus intéressant que ce n'est pas un rapport, que c'est j'écris tout au long parce que je veux faire connaître à ma famille ce qui s'est passé. Donc c'est un récit qui est beaucoup plus libre et beaucoup plus naïf que ne le serait un rapport officiel. So just leave me. I'm
crushed you, so going it on. And I have crushed myself too, I hope it wasn't wrong. Don't worry about this heart of mine, it's been busted for a long time.
Canon Show, Broke My Own sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Vendredi dernier, Joe Guénon et Jacques Morin, deux plongeurs professionnels du club de Cherbourg, se sont envolés direction l'île Tromelin, une petite île d'1 km² quasi déserte. Pour une mission pareille, rien n'est laissé au hasard, surtout sur le trajet des cyclones. Joe Guénon le sait, cette mission ne va pas être de tout repos.
Nous avons choisi cette période parce que c'est le moment où statistiquement il y a le moins de vent et comme l'île n'est pas facile d'accès pour la plongée. Tout autour, bon, il y a beaucoup de courants, beaucoup de remous, beaucoup de ressacs. Et donc, nous avons choisi cette période. Il y a quelques requins, mais on essaiera de pas trop les appâter quand même.
Pendant 5 semaines, l'équipe va explorer l'épave de l'Utile, échouée le 31 juillet 1761. Elle va aussi tenter de reconstituer la vie de la 60aine d'esclaves abandonnés là par l'équipage, avec seulement 3 mois de vivres. Certains y survécurent pendant 15 ans. L'îlot et l'épave n'ont jusqu'ici jamais été explorés. Une expérience assez excitante pour ces passionnés d'archéologie.
Extrait du magazine de la mer du 8 octobre 2006. Max Guérou, voilà très concrètement le genre de fouilles et de missions qui sont menées lors de vos expéditions sur l'île Tromelin.
Oui, tout à fait. Donc, la première mission a consisté d'abord à faire un travail sur l'épave, qui est facile à trouver, puisqu'il y a toujours une ancre qui émerge de la mer. Et pour voir si on pouvait trouver quelques éléments intéressants, avec peu d'espoir, parce que l'île est sur le passage des cyclones, et disons que tous les ans, il y a 4 ou 5 cyclones qui passent à moins de 200 km de l'île, donc là, avec des mers extrêmement fortes, et on conçoit bien qu'une épave ne résiste pas à ce genre de mer. Et ce que l'on a trouvé, en fait, ce sont tous les objets lourds, les ancres, les canons, les lestes du bateau, et à part quelques petits objets, presque rien.
Et combien de temps durent ces missions à chaque fois? Dans quelles conditions vous travaillez?
Elles durent entre 40 et 45 jours. Les conditions sont excellentes, puisque depuis 1954, il y a une station météo qui s'est installée sur l'île. Donc il y a des locaux de vie qui sont tout à fait adéquates. Hein. Il y a une cuisine, d'abord, on y mange très bien. Il n'y a pas de couchage dur pour toute l'équipe, puisqu'on arrive à une dizaine, alors que l'équipe météo est en général au maximum de 4 personnes. Et on vient avec des grandes tentes, et donc on met en place les tentes, et à peu près la moitié des fouilleurs couchent sous la tente, et l'autre dans des lits à droite ou à gauche.
Sylvain Savoya, vous avez accompagné l'expédition de 2008. Vous aviez entendu parler comment de cette histoire des esclaves oubliés de Tromelin?
J'avais lu un tout petit article dans un journal dans Le Monde, je crois, et qui relatait l'expédition de Max. Et en quelques lignes, on racontait le destin extraordinaire de ces naufragés. Ça m'avait complètement passionné parce que j'y trouvais tout un tas de thèmes qui me semblaient passionnants, qui étaient vraiment en écho aux lectures que j'avais eues plus jeune. Donc voilà, l'esclavage bien sûr, mais aussi le naufrage, la survie, l'exil, l'abandon. Enfin, c'était des choses qui étaient très fort humainement et qui me donnaient vraiment envie de me concentrer sur cette histoire.
Alors évidemment, il y a tout le fantasme qu'on peut mettre autour, comme vous dites, c'est très évocateur, hein, ça pousse immédiatement à l'imagination. Puis vous y allez, c'est-à-dire que vous convainquez Max Guérou de l'accompagner en tant que spectateur, hein, vous n'allez pas fouiller, vous êtes là pour dessiner. Et quelle est votre première impression quand vous arrivez sur cette île minuscule qui a l'air complètement rase, hein, sans un seul arbre, une seule piste d'atterrissage qui la traverse? Quel est votre premier sentiment?
La sensation est assez étrange, effectivement, parce que le fait qu'elle soit très plate comme ça, on a l'impression qu'il n'y a absolument rien qui arrête le regard. Et donc, à 360 degrés autour de nous, on voit l'horizon, et c'est quelque chose qu'on ressent absolument jamais, avec ce ciel immense comme ça qui est au-dessus de nous, et surtout pas de bruit à partir du moment où cet avion de l'armée qui fait lui un vacarme extraordinaire s'arrête. Là, ça devient parfaitement calme, juste un peu de vent et le bruit des oiseaux. Mmh. Et c'est un sentiment effectivement d'isolement total, quoi.
Vous vous êtes imaginé, vous évidemment, vous aviez choisi d'être là, hein, vous le soulignez d'ailleurs dans votre bande dessinée, vous êtes là volontairement, il y a même une petite excitation à y aller, alors que il y a deux siècles, bah, les hommes et les femmes qui ont échoué là y étaient contre leur gré, ne savaient pas pour combien de temps ils y resteraient. Vous vous êtes un peu projeté dans leur histoire à eux quand vous y étiez?
J'ai essayé, oui. Alors, passer mes premières impressions, voilà, mes premiers sentiments et d'excitation déjà d'être sur place et de participer à cette aventure, j'ai essayé au maximum de me retrouver dans leurs traces. Et bah, tout de suite, Max en parlait juste avant, chacun se trouvait un endroit pour dormir. Je me suis un peu isolé du groupe aussi, moi-même, pour me retrouver vraiment un peu face à cette île et à ce sentiment d'abandon et ne pas être vraiment dans un groupe, mais être vraiment propice à la réflexion et à surtout l'observation des lieux. Et ça m'a permis vraiment de ressentir quelque chose d'assez fort en étant sur cette île et de me retrouver vraiment dans leurs pas, puisque l'île n'a quasiment pas changé, d'être vraiment sur la plage où on voit l'encre encore émerger parmi le corail. C'est une image qui est très très forte et je visualisais très bien les esclaves sortir de l'eau et essayer de s'accrocher à la vie comme ça sur ce minuscule caillou.
Max Guérou, qu'est-ce que vous espérez comprendre en effectuant ces fouilles sur l'île? Vous avez mené, je le rappelle, 4 expéditions sur place. Qu'est-ce que vous espérez débusquer grâce à ces fouilles?
La première chose que on essaye de comprendre, c'est comment physiquement ces gens, du moins ceux qui ont réussi à survivre, ont survécu dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ont-ils mangé, comment se sont-ils abrités, et ça, c'est les premières questions auxquelles on a assez rapidement des réponses, puisque l'une des caractéristiques du site archéologique, c'est que les naufragés assez rapidement construisent des espèces d'abris, des petits bâtiments avec des blocs de corail. Et lorsqu'ils quitteront l'île 15 ans après, ces blocs de corail vont faire écran au vent et le sable va s'accumuler. Donc on a un site archéologique qui a été comme clos et avec par le sable. Donc on a d'abord la certitude que quand on descend à travers cette couche de sable blanc, que l'on arrive en dessous de cette couche, on se retrouve exactement dans les couches archéologiques qui correspondent au séjour des naufragés. Mmh. Et dans ce sol, on trouve effectivement énormément de choses, en particulier tous les débris de nourriture. Rapidement, on s'aperçoit qu'ils ont mangé essentiellement des oiseaux, des tortues, un peu de coquillages, un peu de poissons. Et donc ça nous donne un premier élément sur les conditions de survie physique.
Et quelle eau, de quelle eau disposait-il? On voit ce qu'ils mangeaient, ils sont entourés d'eau salée, à quelle eau douce ils avaient accès?
Alors ce qui se passe, c'est que si l'ensemble de l'équipage et des esclaves a survécu au naufrage, c'est que dès le lendemain du naufrage, le capitaine, ou plutôt l'officier en second, demande à une équipe d'essayer de creuser au centre de l'île pour trouver de l'eau. Parce que c'est une constante sur des îles coralliennes de trouver en profondeur de l'eau qui s'accumule au cours des pluies pendant les périodes de cyclone. Il y a énormément de pluies qui tombent. Et elle s'accumule dans le sous-sol. Et donc là, ils ont la chance, après un premier essai infructueux, de trouver assez profond, hein, presque 4 mètres 50, 5 mètres, de l'eau qui est buvable, même si elle n'est pas douce. Hein, elle est saumâtre, elle est trouble. Mais cette eau va assurer la survie à la fois de tout l'équipage et des esclaves malgaches pendant leurs 15 ans de vie sur l'île.
Et pendant ces 15 ans, les naufragés français, ceux qui ont pris le bateau et qui ont réussi à s'échapper, eh bien, est-ce qu'ils ont des états d'âme, des remords? En tout cas, à en croire cette fiction de France Culture, on peut imaginer que certains en avaient.
chacun d'entre nous restait hanté par les images effroyables des périls que nous avions vaincus. Je fus hébergé par un notable de Port-Louis, homme loyal. Je délibérais avec lui de l'influence que nous pourrions avoir sur le sort des infortunés restés sur l'île de Sable. Il avait su de son côté que le gouverneur des Forges Boucher avait manifesté une opposition formelle à leur sauvetage, sous prétexte que l'opération était dangereuse, autant parce que les Anglais manifestaient de l'hostilité en ces temps-là que parce que l'abordage à l'île de Sable était très hasardeux. Tout de même, nous avions débarqué, nous, sur l'île de Sable. Nous en étions partis. La chose était possible, pour peu qu'on fût un excellent marin et qu'on bénéficiât d'une bonne fortune. La troisième et seule vraie raison était que cet homme se souciait comme d'une guigne du sort de 60 nègres perdus là-bas. J'usais des relations que j'avais sur l'île de France pour tenter d'approcher le gouverneur, mais je ne suis qu'un pauvre bougre, et monsieur le gouverneur avait beaucoup d'ouvrages.
Max Guérou, qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe en dehors de l'île pendant que ces 60 esclaves, et on imagine qu'au fur et à mesure des années, ils sont de moins en moins nombreux, mais au départ, 60 esclaves complètement isolés du monde sur leur île. Qu'est-ce qui se passe autour? Pourquoi personne ne vient les chercher? Est-ce que certains essayent quand même de convaincre, d'organiser des missions pour aller les récupérer?
Il y a un personnage qui essaye de toute évidence, c'est Castellan du Vernet, le second de l'Util. Je pense qu'il a été entraîné forcé contre son gré à participer à l'embarquement des esclaves, et c'est lui qui promet de venir les rechercher. Et je pense qu'il a toujours été hanté par cette promesse, que c'est d'ailleurs ce qui est dit dans le texte qu'on vient de lire. Il va s'efforcer, dès le début, de faire en sorte qu'on envoie des secours. C'est lui qui demande au gouverneur d'envoyer des secours. C'est lui qui demande après à Monsieur de Saint-Georges, qui est un amiral sur un bateau sur lequel il embarque, d'envoyer des secours. Monsieur de Saint-Georges dit « Oui, on va envoyer une frégate », mais le gouverneur s'y oppose. Et puis après, les choses sont plus difficiles. Castellan du Vernet est rapatrié en France, et surtout la Compagnie des Indes est en train de faire faillite, et donc les directeurs ont d'autres chats à fouetter qu'aller chercher quelques nègres sur une île.
C'est-à-dire, à la fois c'est risqué, ça coûte cher, après tout ce ne sont que des esclaves, c'est toutes ces raisons qui font qu'on n'y va pas.
Non, c'est un dédain complet, de toute évidence. Mais envoyer un bateau depuis l'île de France, c'est même pas 3 jours de mer pour aller les chercher. Donc, c'est simplement un reflet du sentiment des Blancs vis-à-vis de leurs esclaves. Et d'autant plus que le gouverneur était furieux parce que le bateau était perdu et qu'on avait désobéi à ses ordres. Et donc, c'est pour affirmer son autorité qu'il dit non, on n'ira pas les chercher. C'est simplement ça.
Sylvain Savoya, dans votre bande dessinée, vous avez pris le parti vraiment de regarder et de vivre cette histoire depuis le point de vue des esclaves qui sont coincés sur l'île. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que disent les Français, les Blancs, et on comprend par contre ce que disent les Malgaches esclaves, qui ne sont plus esclaves d'ailleurs. Quand ils sont sur cette île, ils sont juste prisonniers de cette île, mais ils ne sont plus l'esclave de personne, à part qu'ils sont, ils sont là où ils ne devraient pas être. Ce choix, il s'est imposé à vous tout de suite, d'être entièrement et uniquement du côté des esclaves.
Oui, dès que j'ai eu connaissance de cette histoire, c'est vraiment ce qui m'intéressait, d'être dans leur regard et d'essayer de comprendre ces événements par rapport à ce que eux étaient et ce qu'ils imaginaient. Donc ça me semblait extrêmement important, et ça aurait été bien sûr nettement plus simple de le faire du côté français. C'est quand même plus évident de se mettre dans la peau d'un français, même s'il est du XVIIIe siècle, que de se mettre dans la tête d'un malgache du XVIIIe. Donc ça a été quand même beaucoup de réflexion par rapport à ça, et j'ai d'ailleurs fait un voyage juste après à Madagascar aussi, pour essayer de comprendre un peu mieux la culture et un peu mieux ce rapport à la vie, à la mort surtout, tout le rite funéraire, tous les liens par rapport aux ancêtres qui étaient extrêmement importants et qui m'ont permis de leur donner aussi une consistance dans cette histoire. Mais ça me semblait évident effectivement d'être dans leur regard, et surtout de ne pas comprendre les Blancs. Je trouve ça très effrayant d'être kidnappé par quelqu'un dont on ne comprend pas la langue et on ne sait pas ce qu'il attend de nous.
On poursuit nos fouilles archéologiques sur l'île Tromelin, sur les traces de ces esclaves oubliés. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac. Guy et Eric Clapton, c'était Crawling Kingsnake.
L'île la plus rude, la plus inhospitalière, c'est Tromelin, un caillou balayé par la mer, situé à 500 km de La Réunion. Pas d'arbres, pas de lagons, juste un bloc de corail qui se transforme régulièrement sous les coups de boutoir du vent. Car Tromelin a la particularité d'être situé au cœur d'une des zones de formation des cyclones. Il n'est pas rare qu'on y enregistre des vents à 250 km/h.
Extrait de Échappée belle sur France Culture. Et quand on entend ça, la description de cette île Tromelin sur laquelle d'abord des esclaves se sont retrouvés naufragés, perdus, oubliés de tous. Et ensuite des archéologues partent faire des missions. On se demande dans quelles conditions on fouille sur une île aux conditions aussi extrêmes et aussi difficiles. Sylvain Savoya, vous qui êtes auteur de bande dessinée, qui n'avez pas forcément l'habitude d'aller sur des terrains aussi difficiles. Comment vous avez vécu cette île en 2008, hein, vous y étiez.
En 2008, tout à fait. On est parti entre octobre et décembre 2008. Et heureusement, Max Guéroux est très calé sur les conditions météo de la région. Et on est parti dans une période qui évite, bien sûr, les cyclones, ce qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Par contre, on doit creuser et on creuse sous 35 degrés en plein soleil. Et c'est assez compliqué, donc il faut boire énormément.
D'accord. Alors vous aviez de l'électricité quand même, un petit peu ?
Par intermittence.
Oui. De quelle façon vous produisiez l'électricité ?
En fait, il y a une éolienne, mais qui était tombée en panne, donc il y avait un générateur qui était allumé régulièrement pour qu'on puisse au moins recharger les appareils et puis faire fonctionner la cuisine et les appareils de la station météo.
Éolienne en panne parce que attaquée par les Bernard l'Ermite qui
ont... Ça aurait pu, effectivement. Il y a des millions de Bernard l'Ermite sur cette île, c'est absolument invraisemblable.
Ouais. Alors, on se dit, vous aviez quand même, vous avez de l'eau hein, que vous faites venir, vous avez votre éolienne en panne. Comment ont-ils fait, eux, Max Guéroux, vous l'archéologue, vous avez commencé à identifier hein, les campements, c'est-à-dire qu'on voit précisément où était installé le campement des esclaves, où était installé le campement des Français, hein, ils ne se sont pas mélangés, ils ont chacun eu une portion de l'île, tout ça vous l'avez identifié clairement sur le terrain ?
Oui, alors on a retrouvé assez rapidement des cartes manuscrites qui avaient été faites probablement par les pilotes de l'Utile à leur retour. Il y en a trois différentes qui indiquent très précisément l'endroit où les marins français avaient créer un camp avec des tentes faites par les voiles et un autre distinct avec les esclaves. Après le départ des Français, il est à peu près certain que l'endroit où était ce camp n'était pas du tout adapté puisqu'il était sur un sol assez dur et les vents, donc comme ils sont partis au mois de septembre, je crois, donc on rentre assez rapidement dans la période des cyclones. Même s'il n'y a pas de cyclone qui passe directement sur l'île, les vents sont violents pendant cette période-là et donc il est probable que la tente n'a pas tenu. Et donc ils vont sur le point haut de l'île qui est au nord et assez rapidement, donc s'installent avec des tentes puisqu'on en est à peu près certain, mais au premier cyclone qui passe à côté, je pense que les tentes ne résistent pas. Et à ce moment-là, ils se mettent à construire ces bâtiments dont on a parlé tout à l'heure, avec des blocs de corail qu'ils récupèrent sur la côte. Et très rapidement, ces bâtiments forment une espèce de hameau. Donc les bâtiments sont des murs très épais. On ne sait pas comment c'était couvert parce qu'ils n'avaient pas grand bois à leur disposition.
Il n'y a pas d'arbres sur cette île.
Non, non. Mais ils pouvaient récupérer quand même du bois sur l'épave pour faire. Mais je pense qu'ils n'avaient pas de matériaux imperméables, donc faire un toit n'était pas très utile dans la mesure où il n'était pas étanche. Et la surface intérieure de ces bâtiments était très petite. C'est des bâtiments qui font entre 2 mètres sur 1 mètre 50 au maximum. Donc je pense qu'ils vivaient largement à l'extérieur. D'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de leurs ustensiles de cuisine à l'extérieur. Ouais. Et qu'ils se mettaient à l'abri simplement quand vraiment les conditions étaient terribles, quoi.
De quel environnement est-ce qu'on sait ça? De quel environnement ils venaient? C'est-à-dire que avant d'arriver là, est-ce que c'était déjà des hommes et des femmes qui étaient des habitués de la mer? Est-ce qu'ils étaient habitués plutôt des terres, de la jungle? Enfin, est-ce qu'ils étaient familiers avec l'environnement dans lequel ils se sont retrouvés?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la seule description que l'on ait dans une pièce de correspondance que j'ai retrouvée, ils sont qualifiés de noirs. On les appelle des noirs Java. Java, ça veut dire que ce sont des gens d'origine indonésienne et donc des gens des hauts plateaux. Ça veut dire que ces gens n'ont jamais eu de contact avec la mer. Par contre, comme on sait que un certain nombre d'entre eux, un an ou deux après le naufrage, et voyant que on ne venait pas les rechercher comme on leur avait promis, un certain nombre d'entre eux, une petite vingtaine, construit un radeau et s'en va. Et donc, on imagine mal que des gens qui n'ont jamais eu un contact avec la mer puissent partir en mer. Donc, il devait y avoir également quelques malgaches de la côte est, puisque en fait l'embarquement a eu lieu sur la côte est. Donc il est probable que la majorité ce sont des gens qui n'avaient aucune expérience de la mer.
Ça montre quand même leur capacité d'adaptation, au-delà du fait que certains ont essayé de construire un radeau pour s'échapper et ça a mal tourné puisqu'on ne les a jamais retrouvés, mais ceux qui sont restés sur l'île ne connaissaient pas la mer, ne connaissaient pas cette alimentation, ne connaissaient pas les types de constructions adaptées à ces conditions climatiques, et ils ont su inventer, s'adapter.
Oui, tout à fait. Donc le plus étonnant, c'est parce que là on déborde des conditions pratiques de vie, c'est le type de construction qu'ils ont faite. Il faut savoir que à l'époque les habitats malgaches étaient systématiquement fait en matière végétale, en bois, en liane, etc. Et que la pierre était réservée aux tombeaux. Et qu'il y avait même des interdits royaux qui interdisaient de construire des autres choses que des tombeaux avec de la pierre. Donc on imagine bien que psychologiquement, ça a dû être extrêmement dur d'accepter de vivre dans ce qui était perçu par eux comme des tombeaux.
Ouais, ils ont construit leur maison comme s'ils avaient utilisé des pierres tombales pour construire leur maison.
Je pense que c'est une image très très forte. On peut même faire le parallèle en disant bon, ils se considèrent quasiment, puisqu'ils acceptent de vivre dans des tombeaux, c'est qu'ils considèrent que leur condition est celle de quelqu'un qui est mort en fait. Et ce qui est très, très curieux, c'est qu'en fait, l'architecture de leur bâtiment est identique à celle des tombeaux malgaches.
Alors, vous avez découvert, lors de vos fouilles, des restes de corps humains.
Donc là, on a l'extrémité proximale d'un tibia humain. C'est un jeune adulte qui a entre 18 et 22 ans. Donc là, on a le gauche qui a été trouvé par Max là-bas, et là, le droit, et c'est le même individu.
Vertèbres, côtes, mandibules, fragments de crâne. Ces restes humains semblent indiquer la présence de sépultures.
Comment le crâne, la face par ici, cette hauteur-là.
Max Guérou, ces vestiges de corps humains, ces restes de corps humains montrent évidemment, on s'en doute, il y a eu des décès sur cette île. Beaucoup de gens, alors soit sont partis, ont essayé de s'échapper et en sont morts. D'autres sont restés, ils sont morts également. Ils sont morts de quoi ? Est-ce qu'on sait ce qui a décimé petit à petit ? C'est l'ennui, ils se sont entretués, ils sont morts de faim, ils ont été frappés par des maladies. Est-ce qu'on sait de quoi ils sont morts ?
On n'a pas d'informations sur cet aspect. Les corps qu'on a trouvés, ce sont deux corps qui, comme le dit Thomas Roman, qui est l'archéologue terrestre qui travaille avec nous, c'est bon de le dire, c'est-à-dire que moi je travaille dans le GRAN, est une association qui travaille en sous-marin. Et donc j'ai demandé à l'INRAP, qui est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, de me détacher un archéologue terrestre pour travailler avec moi. Et donc c'est Thomas Roman qui a fait la totalité des campagnes avec moi. Donc c'est lui qu'on entendait tout à l'heure décrire donc ces squelettes. Donc le problème des squelettes, c'est que ces deux vestiges ont été pelletés par les ouvriers qui ont construit la station météo qui a été installée sur l'île en 1954. D'une manière curieuse, personne n'en a rien dit. Et on a peu d'informations sur la manière dont ils étaient ensevelis, puisqu'ils ont été pelletés. On les a trouvés certes groupés, mais en désordre. Mmh. Et puis, on n'a pas trouvé les sépultures de tous les gens qui sont morts que sur l'île, que j'estime à entre 30 et 40. Bien qu'un officier de la Royal Navy qui débarque sur l'île en 1851 décrit ce qu'il estime être des tombes. Mais comme il dit, c'est dans le voisinage, c'est pas très précis pour retrouver.
Oui, effectivement. Allez, dans un instant, on va apprendre le dénouement de cette histoire. On va voir comment et quand exactement un navire a enfin accosté pour venir délivrer les quelques survivants qui restaient alors sur l'île Tromelin. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion. D'où tu verras les lignes et les rayons que dessine mon quad sur le sable. Tu sécheras tes larmes dans l'air. Pas loin, en vrai, je te rejoins le mois prochain, je vais t'aimer l'éternité. Un peu plus de minutes avant l'après. Au matin, j'ai le visage griffé. T'as zoomé dans mes plaies une fois encore. Tu vois mon épiderme, c'est la vallée de la mort. Thank you.
C'était Flavien Berger qui chantait Brutalisme et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka. Alors on arrive au dénouement de cette histoire tragique. Il y a une première tentative, Max Guérou, pour venir secourir ces esclaves oubliés. Nous sommes en 1775, donc déjà 14 ans après le naufrage. Et c'est un bateau nommé la Sauterelle qui tente de venir les secourir. Comment ça se passe ?
Ça se passe mal parce que à chaque fois qu'on essaye d'aborder sur cette île par la mer étant trompeuse d'ailleurs parce qu'elle paraît toujours très plutôt calme, mais elle est très violente. Donc l'embarcation qui est envoyée pour prendre contact avec les rescapés chavire. Et l'un des marins réussit à regagner la Sauterelle donc à la nage, et l'autre se retrouve sur l'île avec les naufragés. À cette époque-là, donc, ils ne sont plus qu'une dizaine, enfin même un peu plus, non, ils sont 13. Donc, on envoie de nouveau des navires pour essayer de les chauffer, une fois, deux fois, et on échoue à chaque fois. Mmh. Et à ce moment-là, le marin français décide de construire un radeau et part avec les trois derniers hommes et trois femmes. Et laisse donc les sept femmes et un bébé qui naîtra un peu après. Et qui seront sauvés donc par la Dauphine, qui est un bateau de la marine royale.
C'est-à-dire que le premier radeau qui s'en va, lui, va chavirer, hein, on n'entendra plus parler. Et les sept femmes et le nourrisson sont secourus enfin par Jacques Boudin de Tromelin, qui parvient enfin à délivrer les rescapés avec son bateau, la Dauphine. On imagine, au moment où il trouve ces sept femmes, elles ne devaient plus y croire du tout. 15 ans, elles auront passé 15 ans sur cette île, voyant partir petit à petit les hommes, d'autres femmes, qui tous se sont perdus à la mer. Ce sont les seuls rescapés de cette aventure.
Oui, alors ce qui est d'ailleurs étrange, c'est qu'il y a le bébé, sa mère et sa grand-mère parmi les rescapés.
Ah oui, toute une famille. Qu'est-ce qu'on sait de ce que sont devenues ces femmes, Sylvain Savoya ?
Bien, en fait, après qu'elles aient été récupérées par la Dauphine, elles ont été emmenées à l'Île-de-France. Et sur place, elles ont été considérées comme libres, puisqu'elles n'étaient pas réellement esclaves. Elles n'ont jamais été achetées par, par des clients potentiels. Et donc, elles ont été en partie intégrées dans le personnel de la famille du gouverneur de l'Île-de-France, rebaptisées. D'ailleurs, Max a trouvé les documents qui certifient leur baptême et leur nouveau nom. Donc la grand-mère était baptisée Dauphine, justement, la mère a été baptisée Ève et le bébé Moïse, très originalement. Et donc voilà, on perd un peu leurs traces à partir de ce moment-là.
Alors, essayer de retracer toute cette histoire, de la comprendre, évidemment, ça n'est pas inutile, y compris pour les descendants de ces esclaves. Voici ce que dit Sudol Fuma, professeur d'histoire malgache, sur ce que lui apporte la reconstitution de cette histoire. Ce monsieur est décédé aujourd'hui.
C'est important pour moi cette opération parce que à travers cette opération scientifique, c'est aussi retrouver une partie de mon identité puisque j'ai des ancêtres malgaches. Mon arrière-grand-père était malgache et il a traversé cet océan Indien pour être emmené à La Réunion en tant qu'esclave. C'est faire un peu ce voyage, quelque part retrouver ceux qui, comme lui, ont été emmenés en tant qu'esclave et qui, ensuite, après, ont dû vivre cette expérience de liberté, mais une liberté terrible, contraignante, abandonnée à eux-mêmes, et en même temps, ils ont su recréer une organisation. Alors pour moi, ça, c'est retrouver une fierté de mes ancêtres, qui ont vécu, qui sont morts, et quelque part, là, en touchant ce sable, c'est toucher un peu une part de mon histoire. Voilà.
Max Guérou, un mot de conclusion, c'est... Ils y voient de la fierté. En tout cas, c'est important pour eux qu'on sache ce qui s'est passé et qu'on rende hommage à ces hommes et à ces femmes qui se sont retrouvés abandonnés sur cette île Tromelin. Et vous avez envie, vous aussi, que cette histoire soit racontée.
Oui, en fait, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur l'esclavage. Et en travaillant à Tromelin, je me suis rendu compte que il était important, non pas de prendre cette histoire au premier degré, mais de s'en servir comme d'un levier pour parler de l'esclavage, parce que L'avantage du travail que l'on a fait, c'est qu'il est complètement hors des récupérations politiques ou idéologiques de l'esclavage. Donc c'est simplement un travail objectif. Et en parler le plus simplement possible, et en parler effectivement sur tous les tons et à tous les niveaux de public, est important, parce que je pense que les descendants d'esclaves portent un poids extrêmement lourd, souvent non dit, et qui pèse sur eux et sur leur descendance. Donc le seul moyen de les soulager, c'est d'en parler.
Vous organisez donc souvent des expositions dans toute la France métropolitaine et dans l'outre-mer sur ces sujets. Sylvain Savoya, qu'est-ce que vous garderez, vous, de cette expérience forte et du récit que vous avez dû imaginer, construire autour de cette histoire ?
La découverte d'une culture, principalement, et puis une expérience humaine particulièrement forte, oui. Voilà, c'était une manière de me connecter avec le réel, et ce qui est particulièrement intéressant quand on est auteur de bande dessinée, qu'on travaille très souvent sur la fiction, là ça nous permet vraiment d'établir une passerelle avec la réalité et de communiquer complètement différemment.
Pour en savoir plus sur cette histoire, il y a donc votre livre, Max Guérou, Tromelin, L'île aux esclaves oubliés, aux éditions du CNRS, et puis votre bande dessinée, Sylvain Savoya, chez Dupuis, Les esclaves oubliés de Tromelin.
Les épreuves sont terminées ? Il n'y a pas un dragon qui passe par là ? Personne à délivrer ? Mais c'est la retraite. Passe-moi mes chaussons, maman.
Merci à Anne-Sophie Ladonne qui a réalisé cette émission. Juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Anne Pastor pour un nouveau voyage en terre indigène. Bonjour Anne.
Bonjour Daniel.
Qui on rencontre aujourd'hui ?
Alors, on va partir à la fois au Québec et au Cameroun. En deux mots, la culture dominante a choisi l'assimilation. On dira au Québec, où près de 150 000 enfants pendant un siècle ont été arrachés à leur famille et placés dans des pensionnats indiens où ils subissaient humiliation et violence. Aujourd'hui, la parole se libère. Et puis on ira au Cameroun, où sous couvert d'une politique du vivre ensemble avec 200 ethnies, les pauvres pygmées, eux, sont exclus du système, même si l'école est obligatoire et gratuite.
Voyage en terre indigène, c'est tout de suite après le flash. Merci Anne.